en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Renaud Denoy de Saint-Maur a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 29 novembre 2004 dans la section générale, au fauteuil laissé vacant par le décès du diplomate Jacques Leprêtre. L'épée lui a été remise le 11 novembre 2005. Renaud Denoy de Saint-Maur est connu aujourd'hui comme vice-président du Conseil d'État et d'ailleurs toute sa carrière est indissociable du Palais Royal. À sa sortie de l'ENA en 1964, classé 5e de la promotion Blaise Pascal, il entre comme auditeur au Conseil d'État. En 1972, il devient maître des requêtes, puis 2 ans plus tard, il est nommé commissaire du gouvernement près l'Assemblée du Contentieux. Il fait ensuite un passage au ministère de la Justice comme directeur adjoint du cabinet du garde des Sceaux, Alain Perfitte, puis comme directeur des affaires civiles et du Sceau. Après un retour au Conseil d'État à l'Assemblée du Contentieux, il est nommé conseiller d'État en 1985. Un an plus tard, il prend les fonctions de secrétaire d'État au gouvernement de 1986 à 1995. Il a donc vu se succéder au gouvernement 5 premiers ministres et 2 cohabitations. Depuis 1995, Renaud Denoy de Saint-Maur est vice-président du Conseil d'État, responsabilité suprême de la justice administrative, sachant que le président du Conseil d'État n'est autre que le premier ministre en fonction. Son élection à l'Académie des sciences morales et politiques est intervenue en novembre 2004. Un an plus tard, il recevait l'épée d'académicien. Il se trouve que cette épée appartient justement à la famille Denoy de Saint-Maur. Voici le discours prononcé par Marceau Long, ancien vice-président du Conseil d'État. Il présidait le comité d'honneur de l'épée de Renaud Denoy de Saint-Maur, c'est-à-dire qu'il a coordonné la rénovation et la personnalisation de l'objet. Mais avant de parler de cette épée, Marceau Long retrace le parcours de Renaud Denoy de Saint-Maur et s'adresse à son homologue avec une touche d'humour, vous allez l'entendre.
Je vous remercie de m'avoir, au nom de tous nos collègues, n'est-ce pas, demandé de présider le comité d'honneur de remise de l'épée. C'est sans doute parce que nous nous connaissons depuis 50 ans, mais aussi et surtout, je crois, parce que pendant 35 ans, nous nous sommes suivis, les pas l'un dans l'autre, aux fonctions de secrétaire général du gouvernement et puis de vice-président du Conseil d'État. À nous deux, nous avons fait en effet 35 ans. Il n'y a pas bien longtemps, nous avions pu tous lire dans un hebdomadaire qui consacrait une page à un tempérament des échos et une description flatteuse du vôtre. Je le lis. C'est un chef. C'est un chef direct, franc. Ce périgourdin pratique la courtoisie sans précaution oratoire. Vint alors à mon esprit immédiatement la transposition que vous aviez faite de la devise de Guizot lorsque, en pareille cérémonie, vous aviez remis l'épée à Gabriel de Broglie. Droit au but. N'était-ce pas bien mieux que omnia recta brevissima, qui veut dire la même chose d'ailleurs. Vous dites ce qu'il faut dire lorsqu'il le faut, avec une autorité naturelle, sans que jusqu'ici vous ayez besoin d'une épée. Ceci ne vous a pas privé de porter de temps en temps quelques estocades lorsque vous êtes exaspéré, ça arrive. Et les mots, alors, partent vite et peuvent involontairement blesser. Mais donc, ce chef qui va droit au but s'est révélé aussi un fin juriste. Au Palais Royal, de l'auditorat à la vice-présidence, à la place Vendôme, en qualité de conseiller, de directeur du Sceau, et à Matignon, en qualité de secrétaire général du gouvernement. Peut-on faire la synthèse de ces 2 tempéraments, a priori un peu différents? Le droit n'est-il pas tout en nuances, et non en opposition et en contraste? Je crois avoir lu cela dans l'introduction à la générale au droit. Mais François Terray n'était pas qu'un philosophe du droit, il était aussi celui qui a été l'acteur, qui a rédigé des pans entiers de notre droit auprès de Jean Foyer, notre garde des Sceaux rénovateur. Et il y a donc quelques années, Jean Foyer, remettant l'épée, justement, se félicitait et le félicitait de, je le cite, de son humeur batailleuse qui nous faisait sortir de la grisaille et de la mollesse. Je ne sais si on peut vous appliquer ceci, mais c'était des mots que j'ai retenus. C'est à notre conférence, dès notre conférence de Sciences Po, que j'avais apprécié la clarté de vos écrits, de vos exposés et la netteté de vos conclusions. Je m'en réjouissais parce que je savais que vous étiez destiné au service public, au service de l'État, dans une tradition familiale d'épées et de robes, d'officiers et de magistrats. Je vous ai retrouvé avec la promotion Blaise Pascal de l'ENA de 1961 à 1964. C'était la première promotion sortie après la guerre, après la fin de la guerre d'Algérie. D'elle, je n'ai pas gardé de souvenirs particuliers, si ce n'est les problèmes presque courants que pose toute promotion, qu'a posé la vôtre comme les précédentes. Mais le souvenir que j'ai gardé, c'est celui de la fête que vous aviez fait 30 ans après la sortie de cette promotion, donc exactement en 1994, car vous m'aviez demandé de la faire au Palais Royal. Au Palais Royal, il est vrai que j'étais à la fois vice-président du Conseil d'État et, comme vous l'êtes, président du Conseil d'administration de l'école. Nous l'avons donc faite ici et je me souviens encore ne pas des exclamations, des bavardages, des retrouvailles et aussi des musiques bruyantes de cette fête très joyeuse et finalement endiablée. Après tout, n'étais-je pas, comme vous, très heureux de voir que les promotions oubliant un peu les affres de la scolarité se retrouvaient pour célébrer de telles occasions. La mienne l'a un peu fait, pas beaucoup, mais sous une forme plus modeste de déjeuner dans une auberge pendant quelques années, et puis après cela a disparu. Dans notre maison, vous avez exercé des métiers de base de la section du contentieux, en général ceux que l'on donne à des gens qui se sont signalés. Vous avez été non seulement rapporteur, cela tout le monde l'est, mais vous avez été aussi responsable du centre de documentation, vous avez été également commissaire du gouvernement. Je ne vais pas bien sûr énumérer toutes les commissions auxquelles vous avez participé, ni toutes les missions que vous avez reçues. En général, d'ailleurs, elles commencent par être chef de la mission juridique. C'est par là, je crois, que vous avez commencé à l'agriculture, étant chef de la mission de protection de la nature. Mais vous êtes passé très vite, finalement, de l'agriculture au transport terrestre, en passant par les installations classées. Mais votre réputation très vite faite, donc, de juriste savant et en même temps de débatteur, m'a conduit à vous choisir pour me préparer les projets de réponse que le gouvernement devait faire aux 50 députés ou aux 50 sénateurs qui formaient des recours devant le Conseil constitutionnel lorsqu'ils croyaient y voir une violation de la loi. C'était en réalité un jeu majorité-opposition. Et le président Valéry Giscard d'Estaing m'avait dit: ceci sera un statut de l'opposition. En fait, ça se l'est assez vérifié. Mais il est de toute façon une commission de démission que j'ai retenue parce qu'elle révèle vos passions. Est-ce que je dois dire la nature et la chasse ou la chasse et la nature? La question n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais on vous trouvera successivement donc à la mission de protection de la nature et on vous trouvera aussi à l'Office nationale de la chasse, on vous trouvera à la Fédération des chasseurs, non seulement on vous trouvera, mais vous les présiderez, et vous y êtes d'ailleurs encore, et au Conseil forestier, cynégétique et scientifique de Chambord. Je crois que cette question est sans grand intérêt pour ceux, je crois que vous en êtes, pour qui la chasse fait partie d'un art de vivre, qui a ses traditions, ses règles, qui s'est communié avec la nature que vous connaissez bien et que vous comprenez, qui aime les plantes, qui aime les forêts, qui aime la faune, qui ne se limite pas d'ailleurs au gibier à poil et au gibier à plume. Alain Perfit, qui avait la réputation de choisir avec soin ses collaborateurs, vous avez appelé à diriger, à être le directeur adjoint de son cabinet. C'est un signe, et le signe fut encore plus manifeste lorsque, un an après, il vous demanda d'être directeur des affaires civiles et du Sceau, l'une des plus belles fonctions que puisse exercer un membre du Conseil d'État. Et vous le resterez d'ailleurs pendant près de 4 ans, si je crois bien. C'est en 1962, ayant donc survécu une année à la grande alternance de mai 1981, que vous retrouvez le Conseil d'État avec vos fonctions de commissaire du gouvernement. Vous n'y resterez d'ailleurs pas tellement longtemps, puisque dès 1986, le Conseil des ministres vous demande d'être secrétaire général du gouvernement, fonction que j'avais moi-même occupée, donc de 1975 à 1982. J'avais eu à cette époque à faire face à l'alternance qui est simple à dire, mais qui n'est pas facile à faire, n'est pas lorsque tous les ministres sont nouveaux, lorsque tous les membres des cabinets sont nouveaux, et que assez rapidement, les fonctionnaires, ceux avec lesquels on travaille, les fonctionnaires transversaux, peu à peu, au bout de quelques temps, changent aussi. J'avais donc essayé de mon mieux d'assurer non pas la continuité politique, certes, puisqu'il y avait eu changement de majorité, mais la continuité technique et juridique du travail gouvernemental. À vous incombera une autre tâche qui n'était pas facile non plus, celle de faire face aux cohabitations. C'est alors aussi un rôle nouveau du secrétariat général du gouvernement, qu'il faut trouver un autre profil, une autre façon. Et vous l'avez trouvé en modifiant le minimum des choses qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut à cette époque que le SGG, comme on dit familièrement dans l'administration, sache faire preuve à la fois de capacité d'organisation du travail, sache bien aiguiller les dossiers en jaugeant les impacts qu'ils peuvent avoir, non seulement administratifs, mais si possible politiques, sache nouer des rapports confiants avec des ministres différents, nouveaux également. Mais tout ceci, donc, n'est pas impossible et vous l'avez fait. Vous êtes arrivé ainsi à maintenir toutes les procédures bien rodées que nous connaissions, de préparation des réunions interministérielles, d'arbitrage, de relevé de décisions, des fameux bleus de Matignon, comme les procédures du Conseil des ministres, la préparation du Conseil, les dossiers, les réunions à l'Élysée avec le président de la République, les ordres du jour, et ensuite alors les notes de séance, les relevés de décisions et les communiqués. Je crois que ce travail qui est peu connu, qui peut paraître obscur, cette technique du travail gouvernemental est quand même nécessaire pour assurer un minimum de continuité de ce que on veut appeler politique et pour qu'elle garde aussi un minimum de cohérence. Ceci, c'était bien un rôle qui vous convenait, car l'autorité qui fait partie de votre tempérament n'est pas tellement une autorité que vous voulez pour vous-même, C'est un peu de l'autorité de l'État que vous voulez incarner, et vous souffrez, n'est-ce pas, lorsqu'elle n'existe pas, ou est-ce qu'elle vous paraît débordée ou méconnue. Je pense d'ailleurs que vous avez cette semaine, un peu comme moi d'ailleurs, assez souffert de ce qui se passe à Marseille et sur les bords de la Méditerranée. Mais l'autorité n'exclut pas la subtilité. Et cette subtilité, vous l'avez démontrée, en sortant d'une crise née en 1993, née d'une censure par le Conseil constitutionnel d'un texte qui concernait le droit d'asile et qui opposait ou risquait d'opposer l'Élysée et Matignon. Vous vous en êtes très bien sorti par une demande d'avis au Conseil d'État, demande d'avis rédigée de telle façon que... elle comportait la réponse qu'il fallait donner. Alors je crois que nous n'avons pas été dupes à l'Assemblée de cette habileté, et tout le monde a dit « ça doit être Renaud de Saint-Marc qui a rédigé cette question », mais finalement, je crois qu'elle était bien rédigée pour la solution qu'il fallait trouver. Vous me succédez donc en 1995 à la vice-présidence du Conseil d'État, et ce sont les fonctions que vous exercez encore. Vous continuez à tirer tous les partis, toutes les potentialités de la loi du 31 décembre 1987 qui modifie les structures de la juridiction administrative avec les cours administratives d'appel, conseil supérieur des tribunaux administratifs, et en même temps qu'une gestion qui reste centralisé au Conseil d'État pour les personnels et pour les moyens, et auprès duquel siège d'ailleurs le Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Mais vous êtes allé plus loin, vous avez pu, le législateur dont nous a aidé, élargir, avancer cette mission sur le plan des règles de fond et de procédure, et notamment en augmentant les pouvoirs du juge administratif par les injonctions qu'il adresse à l'administration et qui permettent une exécution plus rapide et plus sûre des jugements, et par toute une panoplie de mesures qui concernent les décisions d'urgence. Il y en avait déjà des référés, il y en a encore, il y a presque trop de types de référés, mais c'est surtout la loi du 30 juin 2000 qui a apporté une grande réforme de ce référé administratif, puisqu'à l'heure actuelle, donc, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision s'il y a urgence ou si le requérant avance un moyen qui nous... non pas nous persuade, mais nous fait présumer que la légalité de la décision est douteuse. Et donc tout ceci a enrichi le juge administratif, a modifié l'image qu'il a, l'a rendu plus proche du justiciable, sans qu'il perde du tout son souci de conserver à l'autorité de l'État ce qui lui est nécessaire. Vous avez aussi enrichi notre jurisprudence et allongé depuis 10 ans la liste des grands arrêts de la jurisprudence administrative surveillée par 5 censeurs, auteurs des grands arrêts, 2 universitaires et 3 membres du Conseil d'État. J'ai relevé que dans notre dernière édition, la 15e, celle de 2005, eh bien, il y a 15 arrêts sur 118 portent donc votre marque. Sur 15 arrêts, 10 ont été rendus par l'Assemblée plénière du contentieux, donc sous votre présidence, ce qui est quand même considérable, presque un par an. Mais je m'aperçois que je vous fais trop attendre la lecture de l'épée, dont les symboles illustrent les traits qui me paraissent dominants dans la personnalité de Renaud Dodoin de Saint-Marc, et aurait presque pu nous épargner toute cette longue introduction. J'ai trop tardé aussi à remercier Michel de Guillen-Schmidt, qui présidait le comité d'organisation, de soutien, ainsi que tous ceux dont les contributions nous ont aidés à vous donner cette épée. Cette épée, donc, est une épée de famille, a resté dans votre maison, dans la maison de Renaud, depuis la restauration. l'expert en armes anciennes, Jean-Claude D, et nous l'a certifié comme étant le modèle 1814 des épées des gardes de la porte. Unité que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, n'est-ce pas ? Elle était en bon état, mais elle a été nettoyée et personnalisée. Le fourreau est en cuir neuf, parce que le fourreau, il a fallu tout de même le remplacer. Et sur la chape, vous avez fait graver un bouton qui porte une tête de sanglier, bien sûr, on retrouve le chasseur. Au centre, une minerve, symbole traditionnel, usuel du Conseil d'État. Sur la partie inférieure, l'emblème du 2e régiment de chasseurs d'Afrique, qui a été votre régiment en Algérie. Et sur la partie inférieure, je cherche votre femme, un agneau passant, l'agneau passant, qui est donc la forme d'hommage que vous avez rendu à votre épouse dans ce jour de gloire, dans ce symbole de gloire. Oui. Je peux maintenant accomplir l'acte qui est au fond l'objet de cette cérémonie, c'est-à-dire vous remettre cette épée.
L'épée est donc remise à Renaud Denois de Saint-Marc par M. Marsolon. M. Denois de Saint-Marc, élu à l'Académie des sciences morales et politiques en novembre 2004, est invité à prendre la parole. Après des remerciements appuyés à l'adresse du ministre de la Culture, Renaud Denodu de Vabre, qui a ouvert les portes du ministère pour permettre cette remise d'épée, Renaud Denois de Saint-Marc répond évidemment à Marsolon. Puis, en fin de discours, il revient sur un point particulièrement intéressant, l'histoire de son épée. Nous écoutons donc un extrait de l'allocution de Renaud Denois de Saint-Marc.
Alors j'ai posé l'épée sur la table parce qu'un accident est très vite arrivé. Je ne voudrais pas blesser quelqu'un. Alors maintenant, c'est le moment de répondre. C'est le pas le plus facile. Et je m'adresse maintenant au président Marsolon. Je le salue. Et je remercie en sa personne toutes celles qui ont bien voulu participer au comité d'honneur et à qui je suis lié par des liens d'affection, d'amitié ou d'estime. L'un des termes n'excluant pas les autres d'ailleurs. Tous ne sont pas présents aujourd'hui en raison de leurs obligations professionnelles. Ils le regrettent, je le regrette avec eux et je les salue au même titre que ceux qui sont ici présents. Cher Monsieur le Président, vous avez accepté la présidence de ce comité, mais cette présidence était assortie d'une charge, celle de me remettre cette épée comme vous venez de le faire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir imposé le souci de préparer les propos que nous venons d'entendre, seulement marqués par les excès de votre indulgence et de votre bienveillance à l'égard de votre ancien disciple. Car, mesdames et messieurs, le président Long n'est pas seulement mon prédécesseur au Conseil d'État, mon anté-prédécesseur au secrétariat général du gouvernement, il n'est pas seulement l'ancien directeur général de l'administration et de la fonction publique, l'ancien secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, le directeur général de l'ORTF, le président d'Air Inter puis le président d'Air France. Il a été aussi, et ce fut ma chance, mon maître de conférence, le droit public au cours de l'année universitaire 1957-1958. Il est l'un de ceux, et probablement le premier d'entre eux, l'un de ceux qui ont affermi ma vocation de servir l'État, mais à condition que ce soit au Palais Royal. La qualité de leur enseignement, jointe à une grande part de chance, m'a permis de réaliser cette ambition, audaces, fortuna, vivat. Vous appréciez donc l'importance de la dette que j'ai contractée à l'égard du président Long dès avant l'aube de ma carrière de fonctionnaire. Enfin, je voudrais m'adresser à tous ceux, présents comme absents, dont la générosité a permis à cette épée de connaître une nouvelle existence, pour leur faire part de ma profonde et vive gratitude. J'espère que les conversations particulières que nous pourrons avoir tout à l'heure, lorsque le moment sera venu de nous restaurer, de nous rafraîchir, et rassurez-vous, ce moment va arriver très très vite, me permettront d'individualiser ces remerciements qui ne peuvent pour le moment, ne peuvent pour le moment revêtir qu'un caractère collectif. Cette épée a une histoire qui est simple, peut-être curieuse et en tout cas paisible. Elle a été forgée sous le Premier Empire pour restaurer les Bourbons, ce qui ne doit pas faire beaucoup de plaisir à notre ami Tullard, et amener le comte de Provence sur le trône. Elle appartenait à un membre de la garde royale du Périgord, Quercy et Agenais. C'est une institution qui avait été créée dès 1812 par M. Taffaire de Saint-Germain, sur le modèle et sous l'autorité de la garde royale de Bordeaux, ville dont on sait qu'elle manifesta assez tôt sous l'Empire ses sentiments royalistes. Confiée au commandement du chevalier de la Rochemont, elle avait été organisée sur la base de petites unités géographiques. Un tableau en donnait, en donne toujours, la composition nominative et parmi les noms des membres de la garde royale du Périgord, Quercy et Agenais, relevant du modeste canton de Villamblard en Dordogne, on relève le nom que je porte et qui désigne alors le père de mon trisaïeul paternel, Élie de Saint-Marc. À ma connaissance, la garde royale du Périgord est demeurée pacifique et cette épée est restée dans son fourreau. D'ailleurs, de ce que la tradition familiale m'a appris de cet ancêtre, je tire le sentiment que les seules opérations guerrières qui avaient du prix pour lui étaient celles qu'il engageait contre les loups et les sangliers. Ma famille comptait déjà un chasseur passionné. Ainsi, l'épée qui vient de m'être remise par le président Long était restée inemployée. Ah, monsieur le ministre, je suis heureux de vous saluer. Cette épée était restée inemployée depuis la Restauration. Elle avait vieilli, ses métaux s'étaient ternis, la lame avait été attaquée par la rouille. Elle avait perdu tout son éclat. Et c'est votre générosité qui l'a transfigurée et qui, en lui donnant une nouvelle destination, lui a donné une nouvelle vie. Sa remise en état a été menée à bien grâce aux conseils, aux avis éclairés et à la diligence de M. Jean-Claude Day, qui est ici dans cette salle et que je salue, dont l'érudition en ce qui touche les armes anciennes est absolument sans limite. Et c'est avec lui que mon épouse et moi-même avons choisi les symboles, sobres et discrets, nous a-t-il semblé, qui ornent le pommeau de l'épée et la chape du fourreau. Qu'il en soit, lui aussi, remercié, je le crois. Avec la remise de cette épée s'achève, me semble-t-il, le rite d'entrée à l'Académie des sciences morales et politiques, ouvert par ma candidature il y a déjà beaucoup plus d'un an. Au sein de cette académie, j'ai le plaisir de retrouver trois collègues, dont je deviens ainsi le confrère, Gabriel De Broglie, qui appartient également à l'Académie française, André Damien, Alain Planté. J'y retrouve aussi par le souvenir, vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, deux vice-présidents du Conseil d'État qui, dans la période récente, y ont siégé et que j'ai connus au Palais Royal, Alexandre Parodi et Bernard Chenot. Peut-être est-ce le souvenir de ces précédents qui a inspiré ceux dont Monsieur le garde des Sceaux, Jean Foyer, le regretté Alain Perfitte, mais aussi Monsieur le chancelier honoraire Bonnefous et le secrétaire perpétuel Jean Cluzel, de ceux donc qui m'ont encouragé à présenter ma candidature, ce que j'ai fait avec l'appréhension que suscitait cette démarche audacieuse. J'ai été très flatté et surtout touché de la confiance que m'ont apporté tant de personnages éminents dont la plupart ne me connaissaient pas et qui pourtant m'ont jugé digne d'occuper le fauteuil laissé vacant, hélas, par la disparition brutale de ce serviteur de l'État remarquable que fut l'ambassadeur Jacques Leprêtre et dont j'aurai à rédiger la notice au printemps prochain. Je suis heureux également de saluer Madame Leprêtre ici présente. Encore novice dans cette auguste enceinte, j'ai l'espoir de m'y faire admettre pleinement, regarde le secrétaire perpétuel. J'y serai peut-être aidé par ma familiarité avec le Conseil d'État, car l'Académie des sciences morales et politiques présente quelques analogies avec notre maison du Palais Royal. Comme au sein du Conseil d'État, il y règne une atmosphère de club, caractérisée par la courtoisie, la curiosité et l'attention portée aux autres membres du groupe. Comme le Conseil d'État, l'Académie délivre au gouvernement des avis sur les sujets les plus divers, en relation avec l'évolution de notre société, de nos mœurs. Et comme le fait notre section du rapport et des études, elle sait s'attacher le concours d'experts qui lui sont extérieurs. au lieu d'une réflexion collective éclairée et indépendante, attachée à ses traditions mais curieuse de l'avenir, l'Académie des sciences morales et politiques a bien voulu m'accueillir. Je lui en suis très reconnaissant et c'est donc à cette institution que va la dernière expression de ma gratitude. Je vous remercie. Une garde.
C'était la cérémonie de remise d'épée à Renaud Denoy de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État depuis 1995. Cette remise d'épée a eu lieu le 11 novembre 2005 au ministère de la Culture. Marceau Long présidait cette remise d'épée puisqu'il présidait également le comité de l'épée, c'est-à-dire le comité chargé de la rénovation et de la personnalisation de l'objet. Renaud Denoy de Saint-Marc est élu depuis novembre 2004 dans la section générale au fauteuil laissé vacant par le décès du diplomate Jacques Leprêtre.